Oui, Seigneur notre Dieu, nous te donnons gloire, gloire de nous avoir rachetés, gloire de savoir que tu es au ciel, intercédant pour l'Église. Merci Seigneur d'être là au milieu de nous, dans nos cœurs, et nous te demandons Seigneur que tu bénisses ta parole et que tu nous introduises Seigneur dans l'adoration, dans la louange, parce que nous te devons, plus que cela, te devons notre vie, tout, toute notre vie, et nous la présentons devant toi, notre vie, chacun pour sa part, et nous te disons merci de nous accueillir dans le beau nom de Jésus. Amen.
Nous allons nous préparer à partager le repas du Seigneur, et je vous invite à ouvrir la parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Et on lira à partir du verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera ». Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Il s'est passé donc le repas avec cette intervention de Judas. Mais à la fin, la dernière phrase que nous avons lue, Jésus donne un rendez-vous aux disciples. « Un jour, j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'est donc, après ce repas, un message d'espoir. Mais on peut penser que cette parole n'a pas eu d'effet sur les disciples à ce moment-là. Elle n'a pas provoqué de joie, elle n'a pas provoqué d'espérance, et pourtant. Ils étaient dans la désillusion la plus complète pour leur maître, ils étaient attristés. Jésus leur avait dit, pour ce repas, qu'il désirait vivement le manger avec eux, mais il leur dit aussi qu'ils devaient souffrir. Leur maître les avait prévenus avant le repas et pendant l'intervention avec Judas, « L'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui ». Donc, à l'issue du repas, tout allait mal pour leur foi était affectée, la perspective de la résurrection et donc l'espoir de le revoir n'est mentionné dans aucun évangile pour ces instants-là. Mais nous connaissons l'histoire avec un grand H, nous la connaissons jusqu'au bout et nous savons que Dieu n'a pas failli à ses promesses. Acte 10, verset 40, « Dieu l'a ressuscité le troisième jour ». Et 1 Corinthiens 15, 54, la mort a été engloutie dans la victoire. En partageant le pain et la coupe, nous rappelons chaque dimanche la mort du Seigneur et les circonstances de sa mort. Nous savons et nous redisons, parce que cela nous est demandé, que seul ce sacrifice pouvait nous réconcilier avec le Créateur. Nous réaffirmons le message de Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous rappelons ces heures terribles de la croix, et il le faut, pour ne pas oublier qu'il a souffert par amour pour nous. Mais n'oublions pas qu'après que son corps soit déposé dans le tombeau, l'histoire continue. À un dimanche du dimanche de Pâques, nous pouvons évoquer cette suite de l'histoire et rappeler la manifestation de la puissance de Dieu dans la résurrection de son Fils. La mort avait emporté leur maître, qu'est-ce que les disciples ou qu'est-ce que les femmes qui étaient présentes au tombeau pouvaient faire? Quelle aide pouvaient-ils apporter au Sauveur? Quelle solution pouvaient-ils apporter? Aucune. La mort, à cause du péché, a eu raison du Fils de Dieu. Pourtant, l'ange annonce, on peut même dire qu'il reprend les femmes quand ils cherchent Jésus. Il leur dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Seul un miracle divin pouvait changer cette situation. Dieu l'a ressuscité, il a donc manifesté sa puissance. C'est écrit dans Actes 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'elle fût retenue par elle. Et pourquoi Dieu a réalisé ce miracle de la résurrection? Bien sûr, il y a plusieurs raisons, mais j'en ai retenu deux. Parce qu'il était son Fils bien-aimé, celui en qui il avait mis toute son affection. Il lui avait promis dans Isaïe 53, « Je lui donnerai sa part avec les grands ». Et Jésus avait pleine confiance, et il le croyait bien sûr puisqu'il l'affirmait lui-même, « Je ressusciterai le troisième jour ». C'est donc une des raisons, l'amour et la fidélité du Père pour son Fils. Mais il y en a une deuxième. Il l'a fait pour manifester sa puissance. Il l'a fait pour que tous le voient, pour que chacun nous comprît, pour que nous puissions ne jamais douter de sa puissance. Il a fait le miracle de la résurrection devant ses disciples pour montrer qu'il peut tout, même détruire la mort. Paul dit aux Éphésiens, et il s'adresse aussi à nous, que le Seigneur veut illuminer les yeux de notre cœur pour manifester avec efficacité la vertu de sa force. Et la vertu de sa force, c'est le verset 20, il a déployé sa force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La résurrection de Jésus-Christ nous montre et nous assure la toute-puissance de Dieu. Jésus a été libéré de la mort, nous ne pouvons douter de la puissance de Dieu pour nous. Cette puissance manifestée à la croix, elle nous est destinée. Elle est au service de ses enfants, de ceux qui l'ont reconnue. Pour nous, c'est la puissance, en premier, c'est la puissance qui pardonne, qui a pardonné et qui pardonne toujours. C'est la puissance qui libère la conscience. Tous ses enfants l'ont expérimenté. Nous-mêmes, bien sûr, nous l'avons tous expérimenté. C'est la puissance rédemptrice qui sauve de la colère à venir. Rendons-nous compte que nous sommes acceptés au ciel pour l'éternité. Les disciples, à la fin du repas, n'ont pas pensé à la puissance qui allait être manifestée. Mais nous, ne serait-ce que pour le pardon des péchés, la paix que cela procure et la promesse de la vie éternelle, nous connaissons la puissance de Dieu. La puissance nous a des fois bien protégés, bien sauvés dans des situations compliquées ou même dangereuses. Nous l'avons tous expérimenté. Chacun peut en passer le souvenir dans son cœur. Jésus nous demande de se souvenir de ses souffrances, de la nouvelle alliance, mais aussi de cette grande victoire sur la mort par toute la puissance de Dieu. Nous sommes donc invités à contempler la puissance de Dieu dans la résurrection du Sauveur. Et c'est pour son peuple, pour son assemblée, pour le corps de Christ qu'il l'a fait. Une précision avant de prendre ce repas. Pour pouvoir goûter la puissance de la résurrection dans nos vies, goûter la vie nouvelle, chacun pour soi-même est invité pendant ce repas à communier avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. C'est ce que dit Romains 7, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Chacun accepte ce changement en participant à ce repas. Je vous lis 1 Pierre 1, verset 3, à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et la suite, c'est le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Alors la question est posée. Alors sommes-nous joyeux ce matin d'avoir vu la puissance de Dieu dans le Fils ressuscité? Sommes-nous heureux ce matin de voir la puissance de Dieu dans nos vies quand nous sommes touchés par le Seigneur? Ben oui, bien sûr, nous sommes dans la joie. Alors que faut-il encore pour lancer nos bouches à un simple merci, ou même un grand merci, dirais-je, au Seigneur pour sa toute-puissance, celle que je viens de vous décrire?
Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître Philémon. Alors, Philémon, c'est juste après l'épître à Tite. On va donner un descriptif de cette épître à Philémon. Paul a écrit l'épître à Philémon probablement pendant son premier emprisonnement à Rome. Et c'est Tychique qui va porter les épîtres aux Éphésiens, aux Colossiens, qui transmettent cette épître à Philémon. Philémon, c'est un chrétien de Colosse. Et Tychique était accompagné d'Onésime. Alors Onésime, vous savez, c'est celui qui avait volé Philémon. Il est parti sauver à Rome. Et là, par le ministère de Paul, il s'est converti au Seigneur, il s'est repenti, et Paul va le renvoyer en compagnie de Tychique, donc à Philémon, qui était son ancien maître par le fait. Et Paul demandera à Philémon de pardonner à Onésime, dont le prénom va devenir, la signification va devenir utile cette fois-ci. Alors cette épître à Philémon, elle est d'un haut niveau spirituel parce qu'elle montre le pardon à tout le monde dans toutes les circonstances. Et c'était le message adressé à Philémon et à nous. Mais si nous avons dit quelques mots de cette épître, on va prendre seulement les trois premiers versets. C'est ceux-là qui vont nous intéresser. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours important dans les écrits de voir à qui ces écrits sont adressés, parce qu'il y a une signification forcément. Alors, cette épître à Philémon, elle est adressée à la sœur Aphia. Aphia, on pense que ça peut être l'épouse de Philémon, sans être sûr, et puis à Archippe. Alors Archippe, lui, c'est notre compagnon de combat, et à l'église dans sa maison. Donc Archippe, c'est un compagnon de combat de Paul. On ne sait rien d'autre sur Archippe, ou presque rien. C'est un chrétien sérieux, on le voit, puisque le compagnon de combat, et Paul disait que tous l'avaient abandonné pendant son séjour, il disait que tous l'avaient abandonné, ayant préféré leurs intérêts propres qu'à ceux de Jésus-Christ, dans Philippiens 2. Mais Archippe ne l'a pas abandonné. Donc on sait qu'il est comme cela, Archippe. Et alors, il connaissait la pensée de Paul sur le combat spirituel, combien il était précis, combien il était impressionnant de vouloir que tous ceux qu'il accompagnait soient tournés vers ce combat spirituel. Maintenant, on voulait présenter donc ce monsieur qui s'appelle Archippe, en disant que c'était le compagnon de combat de Paul, et qu'on ne savait pas grand-chose sur lui, voire rien du tout. Alors cette fois, on va reprendre l'Épître aux Colossiens. On va venir dans l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens, c'est une épître où l'apôtre est heureux. Heureux de voir que tous ces chrétiens de Colosse marchent vraiment avec le Seigneur sur son chemin. Il dit, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, le frère Timothée, donc c'est le même. Et il écrit cette fois au verset 2 « Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. » Donc il écrit son épître à tous ceux qui sont à Colosse. Ils sont tous saints et fidèles. « Nous rendons grâce à Dieu, verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Quel message ! On pourrait fermer nos Bibles et dire, mais voilà le message que le Seigneur veut pour nous. Et effectivement, il est aussi pour nous ce matin, pour nous encourager. On a vu que le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres, on a partagé la Sainte Cène, il est passé dans la mort, mais qu'il est ressuscité. Et cet épître nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quel épître magnifique ! Et on pense, et il faut qu'on pense, il faut que ce soit pour nous, tout ce qui est écrit là, aux Colossiens. Et maintenant, nous allons toujours dans les Colossiens, mais cette fois, on va prendre au chapitre 4, et on lira le verset 17. Chapitre 4 des Colossiens, verset 17. « Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. » Ça, on ne sait pas d'où ça sort, mais c'est là. Rappelons-nous que l'apôtre Paul a félicité en quelque sorte les Colossiens pour dire que tous à ceux qui va écrire, ils sont saints et fidèles frères en Jésus-Christ. Archip en fait partie et il demande aux autres de lui dire quelque chose de précis. Dites à Archip, donc il ne faut pas oublier, il faut lui dire, c'est important. Trois choses, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Alors on peut se dire, il garde Archip pour la fin parce que lui, ce n'est pas tout à fait ça. Il manque encore quelque chose, il faudrait qu'il aille plus loin pour ressembler aux autres qu'il a cités. Mais si on prend, sans quitter les Colossiens, dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, deuxième à Timothée au chapitre 4, et au verset 5. Alors voici, deuxième à Timothée, chapitre 4, et il dit à Timothée, l'apôtre, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Il dit la même chose à Timothée. Alors je me suis trompé. Ce n'est pas qu'il voulait avoir une mauvaise remarque sur Archip. C'est qu'il veut l'emmener plus loin. Parce que Archip, il est donné comme un frère fidèle dans le service et compagnon de combat. Timothée, c'est son enfant dans le Seigneur. On sait que l'apôtre l'aimait beaucoup. Et c'est pareil. Donc la dernière phrase des Colossiens, elle est dite, elle est donnée à Archip parce que Paul veut lui montrer, et à nous montrer à nous bien sûr ce matin, l'excellence du combat, ce que veut le Seigneur pour nous, exactement ce qu'il veut. Et ce matin, il va nous dire à tous, prends garde, à moi le premier, j'en ai besoin. Au ministère, alors on va prendre la traduction d'Arbi. D'Arbi nous dit, prends garde au service. Évidemment, le ministère, c'est un service, mais il y a certains ministères dans la parole, dans la Bible, le ministère de la parole et autres. Le terme vrai, prends garde au service. Et il dit pareil à Timothée, les mêmes mots. Ces deux apôtres qui marchaient vraiment de toute leur force, plus que les autres peut-être, que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Alors, bien sûr que ce service, c'est le service du Seigneur Jésus-Christ, d'abord. Le grand serviteur qui nous a servi. On a vu ce matin sur la croix comment il nous a servi. Et c'est toute cette vie terrestre du Seigneur, puisqu'on sait qu'il allait vers tous ceux qui était sous l'emprise du diable, il les guérissait. Il a montré parfaitement une vie de service total et absolu dans tous les domaines. Et c'était notre service à nous également. Et ces termes qui sont « prends garde », Eh bien, le Seigneur veut nous donner ce matin, prends garde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, prendre garde, puisque les paroles sont pour nous, à ce service, au service de notre vie pour le Seigneur. Prendre garde, ça veut dire conserver précieusement. C'est très précis. Surveiller avec attention. Et défendre la chose qui nous est à conserver, si toutefois elle est attaquée. Donc, c'est toute une chose. Conserver précieusement, surveiller avec attention, et si on attaque, la défendre. C'est ça, prendre garde. Et cette vie de service, la définition aussi du service, il est bon de prendre des missions, on le fait quelquefois, c'est mettre à disposition d'autrui toutes nos capacités pour lui venir en aide. C'est clair. Et au moins, c'est complet et c'est profond. Et c'est pour moi. Et le mot « service », c'est le mot le plus important de la Bible dans l'engagement de la vie spirituelle, avec la foi. On a deux choses, deux piliers. Pour l'Église, il y a quatre piliers, on le sait, dans Acte 2, 42. Mais pour nous, on a deux piliers. C'est mettre toute notre vie à disposition de ceux que Dieu va mettre sur notre route, et c'est la foi au sacrifice du Seigneur Jésus. Et quand il dit à Archip, ce ministère que tu as reçu dans le Seigneur et par le Seigneur. Donc le service que reçoit Archip, ou ce que nous recevons comme service, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire jour après jour par sa direction dans quel service nous devons rentrer, pour le Seigneur et pour les hommes. Et la mise en pratique de ce service qu'il voudra nous voir effectuer. Et ce service vient du Saint-Esprit, dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Dieu révèle les choses qu'il a préparées pour ceux qu'il aime. Et l'apôtre Paul a tout reçu par révélation dans sa vie. Alors nous aussi, on voit le chemin où veut nous emmener le Seigneur aujourd'hui, c'est prendre garde au service qu'il veut pour chacun de nous. Lui-même, le grand serviteur, a toujours eu une vie de service dès qu'il est entré sur cette terre. On a vu qu'il guérissait les malades et il délivrait tous ceux qui étaient sous la puissance du diable. Son service, il en a mis le comble dans Jean 13, avant la fête de Pâques. C'est aujourd'hui, à la fête de Pâques, c'est dimanche. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il leur lave les pieds. On avait beaucoup médité sur ce lavage des pieds il y a quelques dimanches. Il se met à laver les pieds. Et dans Matthieu 20, au verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est ce qu'on a encore proclamé ce matin dans la Sainte Cène. Étant monté au ciel, maintenant à la droite de Dieu, le Seigneur Jésus sert chacun de nous également. Il nous connaît tous en particulier, et son service, on l'a dit dans une prière, il intercède pour chacun de nous dans tous nos besoins. Il est au ciel, mais il est avec nous par le Saint-Esprit. Et il n'a aucune cesse d'intercéder pour chacun, tellement il nous aime. Tellement cet amour qui lui a fait donner sa vie dans la douleur et la souffrance est grand. Tellement sa résurrection est puissante, on l'a vu en partageant le repas. Et il intercède pour nous en permanence. En préparant, je ne m'étais pas encore beaucoup rendu compte, et peut-être pas assez. Jésus intercède pour chacun de nous. Mettons notre prénom à la place. Quelle chose magnifique, quelle sécurité. Le Fils de Dieu ressuscité intercède pour chacun de nous. Et dans Romains 8, 34, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, c'est donc la même chose, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quelle grâce ce matin pour toute la semaine qui va venir de remettre cette réalité, pas dans ma tête, moi je fais trop souvent ça, mais dans mon cœur, comme une réalité. Et cette réalité donne la joie, évidemment. Et dans Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et ce qui est dit à Archip, eh bien c'est ça. C'est ça que le Seigneur prend garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. C'est ce service dans ma vie, sous la direction du Saint-Esprit, afin de le bien remplir. On voit alors que ce petit verset 17 s'éclaire de Colossiens 4. Il devait être là, comme il était pour Timothée, et ce matin, comme il est mais comme il est aussi pour nous. Et servir Dieu, servir le Seigneur, dans toute la Bible, ça a été la préoccupation de Dieu pour son peuple. Dans l'Ancien Testament, c'était exactement la même chose. Si on prend Deutéronome 10, 12, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ?» Et là, on s'arrête deux minutes pour nous rappeler que vendredi soir, il nous a été rappelé la crainte de l'Éternel. Non pas comme une peur, ça a bien été dit, mais comme premièrement un respect et deuxièmement un amour à lui donner pour l'amour qu'il a eu pour nous. C'est-à-dire la crainte de l'Éternel dans tout ce qu'il nous dit dans sa parole pour lui obéir dans tout ce qu'il nous dit. Et ce que Israël, c'est que si ce n'est que tu craignes l'Éternel, donc dans ce sens, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer l'Éternel et de le servir de tout ton cœur. Ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu sois heureux. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur a exactement la même pensée pour nous qui sommes ses rachetés. Et c'est ce qu'a dit Zacharie quand il a prononcé son cantique, on va le lire, dans Luc, donc évangile de Luc, sur Luc 1, on lira au verset 67. Vous savez que Zacharie avait été rendu muet parce qu'il n'avait pas cru. Et quand la parole lui est rendue, il donne ce cantique merveilleux, sur Luc 1, au verset 67. Le cantique de Zacharie, c'est la volonté de Dieu pour nous aussi ce matin. Zacharie, son père, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » Voilà aussi le cantique de Zacharie qui, par le Saint-Esprit, nous donne le même message ce matin. Il nous a délivrés de la mort, de la puissance de la mort, de l'enfer. Il nous a emmenés dans son royaume céleste, on a vu dans les Colossiens. Et maintenant, c'est marcher devant lui et le servir dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Le servir. Et c'est cela le message du Christ ressuscité et de Dieu le Père, que nous le servions. Et bien sûr, je réfléchis aussi en lisant tout ça, en le préparant, dans ma propre vie, ce qui peut se passer, ce qui s'est passé, peut-être dans chacun de nous, eh bien, c'est que après notre conversion à Jésus, notre nouvelle naissance, nous sommes heureux de découvrir toute la bonté de Dieu à notre égard. Mais petit à petit, nous perdons le but que Dieu, pour notre plus grand bonheur, veut nous donner, nous mettre à son service de façon réelle, quotidienne. Et nous ne prenons pas garde. Et plus souvent que j'aurais voulu dans ma vie, je n'ai pas pris garde à ce service pour le Seigneur. Eh bien, parce que pour chacun de nous, nous prenons une autre direction, parce que le diable sait quelle direction il faut nous faire prendre pour ne plus prendre garde, plus ou moins, au service que nous devons à Jésus-Christ. Non plus pour servir Dieu, mais à l'inverse, pour se servir de Dieu. Et c'est les mêmes mots. On peut soit servir Dieu, si on est né de nouveau, soit au contraire, et c'est ce que veut Satan. Et c'est un séducteur, il le fait par beaucoup de chemins qu'on ne peut pas voir, qu'on prend même pour vrai, se servir de Dieu. Pour qu'il bénisse mes projets, mes souhaits, que j'ai moi-même décidés, il y en a qui sont bons, mais je les ai moi-même décidés, pour notre bonheur terrestre et ceux de nos enfants. Et nos prières à ce moment-là, sont une suite de demandes d'exaucement personnel. Et l'ennemi va favoriser cela. Et si Dieu ne bénit pas ces prières que je demande, eh bien, je suis déçu de Dieu. C'est une drôle de phrase, être déçu de Dieu. Quand on a entendu qu'il est mort sur la croix dans d'atroces souffrances et d'atroces angoisses, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, eh bien, c'est quand même comme ça. Et à ce moment-là, j'ai vu dans ma vie que l'intérêt pour la vie de l'Église diminue, quelquefois disparaît. L'intérêt pour les personnes que Dieu met sur ma route diminue. Je n'y prends plus garde. Je ne prends plus garde qu'à moi-même. Et je perds à ce moment-là cette vue que je suis responsable de ceux que Dieu a mis sur ma route pour me mettre à leur service, au service de Jésus et leur annoncer l'Évangile. Et j'aurai à rendre compte si je ne l'ai pas fait. On comprend maintenant combien ce terme à Archip, à Timothée, à nous, prend garde au service que tu as reçu de la part de Dieu, afin de le bien remplir. Et on voit que pour Archip et pour Timothée et pour nous, il veut nous emmener dans l'excellence. Il ne vient pas de nous, bien sûr, mais dans l'excellence où le Seigneur voudrait que nous puissions être effectivement des serviteurs et des servantes. Et la suite à ce moment-là sera très belle et très heureuse. Alors, ce matin, offrons à nouveau notre cœur à Jésus-Christ pour qu'il renouvelle dans notre vie, dans notre esprit, que nous ne sommes pas ses enfants pour le prier de bénir nos vies terrestres dans tout. Cela, il ne l'oublie pas. Il ne l'oublie pas, il s'en charge. Au-delà de ce que nous pensons, espérons, si nous nous mettons à son service, il nous fait de magnifiques surprises, et tout au long de notre vie, on en a vu, et on en verra encore, au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne notre cœur pour le servir. Et c'est pour ça que Marc dit, verset 8, 35, on le cite, « Car celui qui voudra sauver sa vie, ça veut dire cela, sauver sa vie, c'est me servir et ne pas servir le Seigneur. Eh bien, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. » Et on va voir dans Luc 24, les deux disciples d'Emmaüs ont vécu cette expérience. Luc 24 partait tout dépité, nous nous souvenons. Alors, au verset 28, on va lire, ils sont là, donc le Seigneur les a accompagnés. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. » Le jour est sur son déclin. Ils étaient dans une tristesse profonde. Ils quittaient Jérusalem parce qu'il ne... Tout le monde nous a parlé de ça, mais lui, on ne l'a pas vu. Et lui, il ne le voit toujours pas. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent, verset important, 32, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et ils font quelque chose, ils quittent cette tristesse, ils quittent ce lieu et ils foncent à Jérusalem. Cette fois, ils ont compris. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, le Seigneur est réellement ressuscité. C'était réel pour eux. Il faut que ce soit réel pour nous aussi ce matin, après ce qu'on a entendu en partageant la Sainte Cène. Et il est apparu à Simon. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et demandons à Dieu qu'il ouvre nos yeux, parce que leurs yeux étaient ouverts. C'était des disciples. Il l'avait accompagné pendant sa vie, comme nous. Nous l'avons accompagné aussi. Puis Dieu ne nous fait pas de reproches. Mais leurs yeux se sont ouverts pour voir la réalité du Christ ressuscité. Il était là. Cette fois, ce n'était plus dans ma pensée, mais en vérité. Et le Saint-Esprit ouvrira nos yeux intérieurs du cœur pour voir Jésus et être avec lui. Qu'il ouvre nos yeux pour nous montrer ce chemin du service. Demandons-lui un cœur brûlant. Le verset 32 est important, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Voilà un cœur qui brûle. On a quelquefois eu le cœur brûlant pour des grandes joies, des grands exaucements. Eh bien, le Seigneur voudrait renouveler en nous, tous les jours, pour lui un cœur brûlant d'amour, parce que nous le voyons ressuscité par sa puissance, le sacrifice accompli, et que bientôt, nous allons être avec lui. Et retrouvons, j'en ai besoin aussi, retrouvons une vie de prière selon sa volonté, seul et dans l'Église, retrouvons ce qui nous a été apporté, une obéissance à sa parole, une disponibilité complète pour les pécheurs qu'il met sur notre route. Et un des artifices les plus importants du diable, c'est de nous faire vivre notre foi pour nous, mais d'oublier ceux qu'il a mis sur notre route, et c'est cela, notre but, de les amener à Jésus-Christ. renouvelons avec le Seigneur un amour et un intérêt grandissant pour les frères et sœurs de l'Église, le corps de Christ, dont nous avons reçu beaucoup de messages ces temps-ci, les réunions, les repas fraternels. Et puis, aussi renouvelons nos prières pour ceux qui sont persécutés et ceux qui sont dans la difficulté. Et on a été très, très touchés, mercredi soir, à Béthanie, ces frères qui annonçaient l'Évangile en Ukraine. Ils allaient au front pour annoncer l'Évangile et la vie éternelle en Jésus-Christ. C'était vraiment... Ils étaient au service du Seigneur vers ceux qu'il avait envoyés spécifiquement pour ce service. Parce que le Seigneur Jésus intercédait pour ceux-là aussi, et il envoyait les chrétiens qu'il voulait leur annoncer l'Évangile. C'était poignant, réellement. Alors à ceux, si nous prenons cette route, et moi j'ai besoin de la prendre et de la reprendre, de tout donner pour servir le Christ et mes frères et les autres, nous connaîtrons à ce moment-là une joie débordante dans notre cœur. Elle ne peut venir qu'à ce moment-là, si on se met au service du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit qu'il veut mettre en nous sa joie, et que sa joie est parfaite. Mais on ne peut pas l'avoir si on demande que pour nous. Dieu ne peut pas la donner, parce que nous méprisons de servir son Fils. Honnêtement, je parle plus pour moi que pour vous, que chacun s'éprouve soi-même, mais j'avais besoin aussi de retrouver ces choses. Et cette joie, elle est vraiment exprimée, mais je voulais vous lire un témoignage d'un frère. Ce frère, c'est un anglais, il s'appelle Oswald Chambers, et je vais lire ce qu'il dit pour terminer. Il dit ceci, il cite Actes 20, 24, où Paul dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et il dit « Ma joie découlera du parfait accomplissement des choses pour lesquelles j'ai été créé et régénéré. Elle ne viendra pas du succès qui pourrait en résulter. » La joie de notre Seigneur fut d'accomplir l'œuvre pour laquelle le Père l'avait envoyé. Et il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Si le Seigneur m'a confié un service, je dois le remplir loyalement et n'attacher de prix à ma vie que pour l'accomplir. Quelle joie nous aurons à entendre Jésus nous dire, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Et ce sera comme ça, quand nous arriverons vers lui. Il faut que ce soit comme ça. Si c'est autrement, on sait que ce n'est pas terrible. Hein, Corinthiens 3 nous dit « Sauvés comme au travers du feu ». Parce que le Seigneur veut autre chose, évidemment. Nous avons tous à trouver notre place dans la vie. Et au point de vue spirituel, nous la trouvons quand nous recevons un service de la part du Seigneur. Pour le remplir, il nous faut vivre dans l'intimité du Seigneur. Avoir trouvé en lui encore plus que notre sauveur personnel, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. On sait que la voie sera étroite. Mais on a vu aussi dans 1 Pierre que, quoi qu'il le faut, pour un moment, vous ayez des souffrances dans ce monde, mais elles vont nous purifier comme on purifie l'or quand il viendra. Et cette question qu'il a posée à Pierre, « M'aimes-tu ? » Alors, « Paix mes brebis. » Nous n'avons pas à choisir notre service, mais à exécuter loyalement l'ordre de notre Seigneur, que nous discernons lorsque nous sommes en communion intime avec Dieu. Si vous avez reçu un service du Seigneur Jésus, vous devez savoir que l'appel des circonstances n'est jamais à lui seul l'appel de Dieu. Les circonstances vous fournissent seulement l'occasion d'agir. Vous êtes appelé à être fidèle au service que vous avez reçu. Cela n'implique pas qu'il y ait un plan de service tracé d'avance, mais simplement refuser les autres tâches qui pourraient s'offrir à vous et qui ne seraient pas dans la ligne de l'appel de Dieu. Eh bien, voilà, c'est quelques pensées que j'avais à partager parce que je me suis rendu compte que j'en avais besoin et que pour que notre Église grandisse, et nous avons à cœur tous ce fardeau, il faut que moi, le premier, chacun de nous, nous donnions notre cœur pour servir Jésus-Christ. Et lui nous donnera beaucoup plus pour les choses de la terre, il l'a toujours montré. Alors c'est un sujet de réjouissance de repartir avec... la grâce de Dieu, savoir qu'il est auprès du Père, savoir qu'il intercède pour nous, qu'il nous connaît, qu'il répond à tous nos besoins, si nous mettons simplement et complètement notre foi en lui.
Seigneur, merci de nous avoir rappelé ce matin toute l'importance et la nécessité d'un service tout à fait renouvelé, tout nouveau pour toi. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, te demander de la garder devant nos yeux tout au long de cette semaine. Seigneur, visite aussi ceux qui n'ont pu être là ce matin. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole, pour le soin que tu prends pour chacun de nous. Amen.